type de portes ouvertes qui a préparé ce culte de l'Église persécutée. C'est le psaume 13. Le psaume 13, d'où a été inspiré le petit cantique qu'on vous a chanté à l'offrande. Nous allons donc lire ce matin le psaume 13, psaume de David. Avant de lire la parole de Dieu, je veux prier. Seigneur, nous ouvrons cette parole, cette Bible, sans crainte, sans peur. Nous la portons avec nous, nous pouvons la voir dans notre voiture, nous pouvons l'emporter dans notre sacoche, au travail, n'importe où, sur notre téléphone, sans aucune crainte d'être jugé, d'être condamné, d'être attaqué parce que nous l'avons. Grâce te soit rendue pour cette liberté. Et viens en aide à ceux qui ne l'ont pas, Seigneur, que tes paroles, que ta sagesse leur soient accordées sans la Bible, par le Saint-Esprit directement, et que ton Esprit, pour nous, nous aide et nous permette de comprendre ta parole avec sagesse et honnêteté et clairvoyance. Amen. Psaume de David, du répertoire du chef de chorale. Jusqu'à quand, Seigneur, persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci, me ronger de chagrin tout le jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage? Seigneur mon Dieu, regarde-moi, réponds-moi, rends-moi un peu de force. Sinon mes yeux se fermeront pour le sommeil de la mort. Sinon mon ennemi se vantera d'avoir eu le dessus et mes adversaires se féliciteront de ma défaite. Moi je veux compter sur ta bonté, je veux me réjouir de ton secours. Seigneur, je veux chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma faveur. Amen. Voilà selon les traductions, cette finale. Moi j'ai confiance en ta bonté, mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut, je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. C'est le cantique qu'on a chanté à l'offrande. Alors je ne sais pas à quelle époque de sa vie David a composé ce psaume. Était-ce que lorsqu'il était jeune et qu'il fuyait devant le roi Saül, son prédécesseur, qui voulait le mettre à mort? Était-ce alors qu'il a précipitamment quitté Jérusalem, tandis que son fils Absalom tentait un putsch pour le détrôner? Mais cela n'a pas vraiment d'importance pour comprendre ce que David vit, ce que David partage. Il exprime d'abord un sentiment d'abandon, et de lassitude de la part de Dieu. Ensuite, il demande à retrouver une assurance qu'il a perdue, d'être relevé. Et enfin, étonnamment, dans la foi, il exprime une assurance presque contradictoire avec le début du psaume. Commençons par l'abandon de Dieu. 4 fois, David demande « Jusqu'à quand ?» Combien de temps va durer cette épreuve? L'attente incertaine. Avancer à l'aveuglette. Souffrir sans relâche, sans perspective de fin. Ce sont là des perspectives terribles. Nous pouvons rassembler notre courage lorsque nous connaissons la durée de l'épreuve. Nous parvenons à nous projeter dans le temps de la souffrance plus simplement si nous savons qu'après viendra le repos pour notre cœur, pour notre corps. Mais l'épreuve sans limite. les ténèbres dont on n'arrive pas à traverser l'épaisseur. Voilà des situations angoissantes qui peuvent bien nous faire défaillir. Jusqu'à quand ? Dis-moi ! Jusqu'à quand ? David veut savoir combien de temps encore durera son épreuve. Il a l'impression d'être abandonné par Dieu alors qu'il souffre. Si Dieu était là, dans le Proche-Orient ancien, on croyait facilement que ceux dont la vie était douce avaient la faveur des dieux. Les divins leur sourient. À l'inverse, ceux qui sont misérables devaient avoir offensé les dieux pour se retrouver dans de telles situations. Et il est vrai qu'on trouve dans les Écritures saintes cette idée que Dieu élève celui qu'il veut et qu'il abaisse celui qu'il veut. Anne, la mère du prophète Samuel, écrivait « L'Éternel appauvrit, l'Éternel enrichit, il abaisse et il élève. » Asaph écrivait dans un psaume « Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » David pensait-il avoir fauté ? Pensait-il être tombé en disgrâce ? Je ne le sais pas. Mais c'est certainement ce qu'il ressentait dans son cœur. Une impression d'injustice. Et puisque Dieu est tout puissant, puisqu'il voit tout, puisqu'il sait tout, si je souffre, tandis que Dieu le sait, tandis que Dieu le voit, quelle autre explication donner que celle d'un Dieu qui m'abandonne à mon sort ? Cependant, on peut voir cette chose étonnante. Dans son malheur, David exprime qu'il n'est pas d'accord avec son Dieu. Sans peur que cela aggrave son cas. Il dit que c'est Dieu qui persiste à l'abandonner, que c'est Dieu qui refuse de le voir. Nous verrons que ce n'est pas le cas. Néanmoins, dans son cœur, là, tellement rempli de douleur et de peur, il a besoin de dire des choses comme il les vit. Et ça ne le met pas en danger par rapport à Dieu. Nos frères et sœurs qui souffrent pour leur foi doivent trouver dans les paroles de ce psaume quelque chose qui fait écho avec ce qu'ils vivent. Et certainement, parmi nous ce matin, il y en a qui ont pu trouver du réconfort à pouvoir prier les mêmes mots que la Bible à Dieu. J'ai le droit de te dire ça, Seigneur, parce que c'est déjà écrit. Jusqu'à quand ? Nous pouvons crier à Dieu le fond de nos pensées, de notre cœur, sans peur de pécher, dire nos doutes, dire nos désaccords, notre incompréhension. La prière juste ne peut pas être une prière d'hypocrite. Mais tout en désaccord qu'il soit avec Dieu, c'est tout de même vers lui que David pleure, c'est à lui encore que David crie, il vit comme un abandon, mais ne veut pas changer de Dieu pour autant. « Regarde-moi, réponds-moi, lui crie-t-il. Redonne-moi des forces. » S'il ne comprend pas son Dieu, il continue de voir en lui celui qui peut le délivrer de la mort, celui qui ne le laissera pas à ses adversaires. Il espère que Dieu tournera la situation en sa faveur, d'une façon ou d'une autre. La manière dont il parle, c'est un peu étonnant pour nous. C'est comme s'il cherchait à influencer Dieu, en appuyant sur le « Mais qu'en dira-t-on ? Si je me confie en toi, Éternel, et que je suis vaincu, bah, quelle réputation ça te fait ? Et moi qui me confie en toi, est-ce que j'aurais parié sur le mauvais cheval, le mauvais Dieu ? N'es-tu pas le Dieu vivant ? Je doute qu'aucun d'entre nous n'ose parler à Dieu comme cela. Pour David, c'est comme si Dieu pouvait être touché, bouleversé, troublé, motivé, influencé. Il prie avec cette proximité étonnante. Et là encore, on peut voir et contempler à quel point il ne craint pas de parler à son Dieu de cœur à cœur. Et il termine cette prière, ce cantique, par cette résolution. Je t'attends. Je t'attends. Tu viendras. Tu me délivreras. Tu es bon et donc tu ne m'abandonneras pas pour toujours. Et quand bien même il ne voit pas encore la délivrance, il la chante par la foi. Le chemin de foi de David peut être aussi le nôtre. Un chemin de cœur à cœur, où l'on exprime ce que l'on ressent. Je me sens abandonné, je me sens lassé. Où l'on exprime ce que l'on désire. Je voudrais que tu me relèves, je voudrais que tu me regardes, je voudrais que tu me renouvelles des forces. Et enfin, on proclame sa foi, ça veut dire sa confiance, que Dieu répondra favorablement, avant même de l'avoir reçu. Nous vivons les choses avec notre courte vue humaine, n'est-ce pas ? Dieu voit tout. Il connaît les temps à venir, la durée des épreuves. Nous, nous naviguons à vue. Lui n'est jamais perdu. Alors nous avons des vraies raisons logiques de nous confier en lui. Mais cela ne veut pas dire que ce que nous éprouvons au cœur de l'épreuve est faux. Notre ressenti n'est pas faux, même face à Dieu. Imaginez un enfant qui regarde un film avec vous. Vous avez déjà vu le film. Mais l'enfant à vos côtés, il découvre le film. Et il vit des choses sans savoir quel est le fin mot de l'histoire. Et le voilà qui prend peur au cœur de l'intrigue. Et même si à côté de lui, vous le rassurez en disant « T'inquiète pas, ça va bien se finir. » Ça le rassure un peu pour oser continuer le film. Mais ça n'enlève pas les peurs et le ressenti qu'il a à ce moment-là. Et ce n'est pas parce que vous, à côté, vous connaissez la fin de l'histoire qu'il a tort d'avoir peur. Qu'il fait une faute en ayant peur. N'est-ce pas ? De même, vous pouvez chercher à être rassuré par la présence du Seigneur dans vos épreuves, mais ne vous culpabilisez pas d'avoir peur. Vous pouvez prier pour vous emparer des promesses de Dieu par la foi, mais ne vous reprochez pas de trouver effrayante, de trouver éprouvante les circonstances difficiles dont vous ne percevez pas la fin encore. Que vos peurs ne vous guident pas. Que vos peurs ne vous maîtrisent pas. Et que le Seigneur vous apaise vos cœurs, mais vous n'avez pas tort de les vivre et de les ressentir. Au cœur de tout cela, il faut nous souvenir d'une chose. Il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'une personne dont Dieu s'est détourné, vis-à-vis de laquelle Dieu a tourné le regard malgré ses suppliques. Il n'y a qu'un être humain qui, plein de foi, plein d'amour pour son Dieu, a prié vers le ciel et là-haut, pas de réponse. Rien. C'est Jésus. Tandis qu'il avait toujours obéi à Dieu, alors qu'il était suspendu sur la croix pour accomplir la mission que Dieu le Père lui avait confiée, souffrant pour nous, le regard de Dieu s'est fermé. Le silence, le vide dans le cœur de Jésus, le vide. Si vous marchez un peu avec le Seigneur depuis quelque temps, vous connaissez cette conscience dans votre vie que Dieu vous voit, Dieu vous regarde. Vous savez ça. Dieu voit, Dieu est là, Dieu sait tout ce que vous faites. Dieu lit jusqu'au fond de votre cœur tout le temps. Vous connaissez cette présence-là, vous la connaissez, n'est-ce pas? Là, sur la croix, Jésus, c'est comme si le fil avait été coupé. Je ne te vois plus. Il ne sentait plus rien. Pire encore, il savait que le Père avait délibérément fermé les yeux sur lui. L'abandon réel. Même si cet abandon avait un sens, même si cet abandon allait produire quelque chose, s'il n'allait durer qu'un seul temps, le temps de l'expiation du péché, cet abandon était injuste, immérité, contre nature, insupportable, horrible, plus froid que la mort. Christ a été abandonné pour moi, pour toi, pour nous tous, pour que cette Église qui souffre sur la terre, abandonnée pour que tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, sachent qu'ils ne seront jamais, jamais, jamais abandonnés. Dieu ne détournera jamais son regard de vous. Quoi que vous fassiez. Dieu ne détournera jamais son regard de vous, quoi que vous fassiez. Pas le moindre froncement de nez, pas le moindre sentiment de répulsion, pas rien, jamais, quoi que vous fassiez, où que vous soyez. Parce que Christ a été abandonné pour vous. Alors, au cœur de toutes les épreuves, empruntons ce chemin de David, de foi. Souvenons-nous que nous ne voyons pas tout, mais Dieu, lui, nous conduit vers la lumière, toujours. Parfois loin, parfois au-delà de la mort. Mais jamais abandonné. Si nous demeurons en lui, nous serons vainqueurs du mal et non rongés par le mal. Oui, nos corps peuvent disparaître pour toujours, mais pas l'amour de Dieu pour nous. Et je conclue avec ces mots de l'apôtre Paul. Car Dieu a dit : la lumière brillera du sein des ténèbres. Et il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons des trésors dans des vases d'argile afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes les manières, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, dit Paul, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. C'est ce qu'il écrit aux Corinthiens. Et il est étonnant ce dernier verset. La mort agit en nous et la vie agit en vous. comme s'il acceptait que lui et ses compagnons souffrent pour le nom du Christ, alors que les Corinthiens n'y souffrent pas pour le nom du Christ. Quoi qu'il en soit, que Dieu nous garde de nous assoupir et qu'il garde nos sœurs et nos frères qui souffrent, pleins de gloire et pleins d'espérance. Amen.